Alors, j'en viens maintenant à la présentation de notre conférencier. Donc, il s'agit de... c'est un, non seulement un conférencier de l'Université de Tous-les-Savoir, mais c'est un ami, donc j'ai le plaisir à le présenter. Antoine Danchin, il est biologiste, directeur du département génome et génétique à l'Institut Pasteur. Il a été élève à l'École normale supérieure en mathématiques de 64 à 68, où je l'ai connu d'ailleurs. Ensuite, il est docteur en troisième cycle en chimie physique en 67. En 71, docteur en sciences physiques. De 70 à 78, il travaille à l'unité de physico-chimie, département de biologie moléculaire à l'Institut Pasteur. Puis, à partir de 83, à l'unité de biochimie et génétique moléculaire. De 86 à 2000, il est directeur de l'unité de régulation de l'expression génétique. Et de 2000 jusqu'à aujourd'hui, il est directeur de l'unité de génétique des génomes bactériens. L'ensemble de ses recherches est centré sur une question unique. Peut-on trouver des règles d'organisation dans la cellule montrant comment les gènes fonctionnent ensemble et concourent ainsi à l'harmonie du développement cellulaire? Il va nous parler de l'état le plus actuel de ses réflexions. Il a publié, bien sûr, des articles savants dans les revues spécialisées, mais il a aussi publié des livres d'éthique et de popularisation de la science. Popularisation, c'est un anglicisme pour vulgarisation. Un livre « Ordre et dynamique du vivant au seuil » en 78, « L'œuf et la poule, histoire du code génétique » chez Fayard en 1983. Une aurore de pierre aux origines de la vie, le seuil 90, la barque de Delphes, ce que disent les génomes chez Odile Jacob il y a 10 ans, et dont il y a une version américaine, Harvard University Press, 2003, entièrement remaniée pour le public anglo-américain. Je suis très heureux d'ailleurs qu'ils disent anglo-américain et pas anglo-saxon, puisqu'il n'y a pas d'anglo-saxon comme chacun sait, mais il y a des anglais, des anglo-américains et puis... quelques saxons aussi. Voilà, donc je vais lui céder la parole avec beaucoup de plaisir pendant une cinquantaine de minutes, une heure. Puis je vais aller dans le public pour suivre sa conférence et ensuite je reviendrai pour les questions. Donc Antoine Danchin, c'est à toi. Merci.
Merci, j'aimerais... remercier Yves Michaud de m'avoir invité à nouveau, puisque j'ai parlé tout au début de l'Université de tous les savoirs. Je pense que c'était en 2000, dans les toutes premières conférences. Depuis 2000, il s'est passé énormément de choses et nous sommes dans un moment tout à fait révolutionnaire et j'aimerais essayer de vous faire partager avec moi l'émotion que cela procure en ce moment. Alors, le premier contexte dans lequel je vais essayer de vous placer, c'est l'idée que nous devons revoir complètement notre façon de considérer la nature en introduisant un nouvel élément qui est l'élément qu'on peut appeler information. Alors la biologie s'est développée sous sa forme moderne essentiellement à partir du milieu du 19e siècle et on voit ici ce qui a permis ce développement dans un extrait de Claude Bernard qui indique que pour essayer de comprendre la biologie, eh bien, il faut la replacer dans la physique et la chimie. Ça a duré pendant à peu près 100 ans, et puis brutalement, on a été obligé d'introduire d'autres aspects que simplement les aspects physico-chimiques. L'approche de Claude Bernard a donné lieu à une approche assez amusante d'un quelqu'un qui était un peu fantaisiste à sa manière, Stéphane Leduc, qui en 1912 a publié un livre qui s'appelait « La biologie synthétique » avec l'idée que les formes dans la nature, et en voici une ici, minérales en fait, ressemblent très fort aux formes de la vie et il n'y a pas de raison de ne pas penser à refaire la vie à partir à nouveau des règles et des lois de la physico-chimie. Donc toute l'idée est de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors les ingénieurs du MIT aux États-Unis se sont dit, bien, si nous pouvons reconstruire la vie, après tout, pourquoi ne pas penser la vie en termes d'ingénierie. Est-ce qu'on peut imaginer des biobriques, et vous avez dû entendre parler de ces biobriques au cours des exposés précédents, est-ce qu'on peut imaginer des biobriques, les mettre ensemble et reconstruire un organisme vivant? Typiquement, le les objets qu'on sait reconstruire, ces objets de ce type, ce sont des cultures bactériennes qu'on programme de manière à produire des couleurs particulières, ici la fluorescence verte ou rouge, en fonction d'une programmation qui a été décidée par l'homme de façon très précise. Si on regarde de près en fait ces approches, on se rend compte assez vite qu'elles sont faisables immédiatement, c'est-à-dire qu'on les construit, on les réalise en laboratoire, elles donnent lieu à ce type de phénomène. Mais si on utilise ces bactéries plusieurs fois de suite, les phénomènes en question disparaissent entièrement. Et ça, je vais revenir là-dessus dans toute la suite de mon exposé. Alors, quels sont les objets de la biologie synthétique? Mais c'est d'abord d'essayer de comprendre quel est le nombre de gènes minimum qu'il faut pour organiser une cellule. Est-ce qu'on peut reconstruire ce qu'on connaît? Typiquement, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'idée du réprésiliateur, c'est des circuits logiques qu'on sait reconstruire. Est-ce qu'on peut réécrire en simplifiant? Et puis, vous avez entendu Philippe Marlière, par exemple, vous parler de l'idée de changer le code génétique, et c'est-à-dire utiliser les concepts de la vie, mais avec des objets différents. Donc ça, c'est l'idée de la biologie synthétique. Alors, quand on regarde d'un peu près, ça met en jeu des approches très, très différentes les unes des autres. Certaines d'entre elles, et je vais en parler, sont liées de très près à l'origine de la vie, puisque dire biologie synthétique, ça s'interroge sur comment construire la vie, si on veut, donc vie artificielle. Et vous avez peut-être entendu parler, au cours des exposés précédents, de l'idée vie orthogonale, c'est-à-dire de construire des organismes vivants qui ne seraient pratiquement sans interaction avec les organismes tels que nous les connaissons aujourd'hui, comme une dimension orthogonale est orthogonale à un plan. On a aussi, évidemment, tout ce qui est biologie moléculaire, évolution, biotechnologie. Et puis enfin, ce qui est l'approche de MIT, ingénierie, calcul et modélisation. Eh bien, une fois qu'on a tous ces éléments, eh bien, on peut se dire, je vais reconstruire. Et alors, voilà ce qui se passe. On peut se dire, évidemment, je vais faire la même chose avec, par exemple, des ordinateurs. Est-ce que je suis capable de faire un ordinateur qui ferait des ordinateurs? Vous allez être surpris peut-être, mais il existe déjà une approche, elle aussi inventée par des ingénieurs américains, qui est l'idée d'essayer de faire une imprimante à trois dimensions qui se reproduise. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisque ça veut dire que cette imprimante fabrique des objets à trois dimensions, donc des composants analogues aux biobriques qu'on décrit dans les organismes vivants. Et l'idée est que si on pouvait faire ça de façon complète, on aurait déjà un organisme artificiel, alors cette fois-ci éloigné de la vie, qui se reproduirait lui-même. Alors, ce qui devient intéressant ici, c'est de voir ce qui n'est pas reproduit dans la machine en question. Il y a d'abord le programme. Ça, on ne sait pas le reproduire. Encore que, dans la mesure où on fait des programmes sur des microprocesseurs avec des masques qui sont éventuellement créés avec des lasers, on pourrait très bien imaginer le refaire. Mais c'est surtout cette question-là qui importe. Comment fait-on l'assemblage? Et vous allez voir que ça, c'est une question cruciale et qui est au centre de ce qu'est la biologie, et c'est ça que je vais essayer de vous développer aujourd'hui. Alors, pour vous faire comprendre ce dont il s'agit, je reprends une vieille image, une question que posait la Pythie il y a 3000 ans aux gens à Delphes qui venaient l'interroger sur leur avenir. Elle leur posait des énigmes, et une de ces énigmes est très simple, c'est « j'ai une barque faite de planches de bois, les planches s'usent une à une, je les change, au bout d'un certain temps, j'ai changé toutes les planches, est-ce la même barque ?» Et bien évidemment, le propriétaire va répondre « Oui, c'est ma barque et c'est bien la même barque. » Et pourtant, la matière de la barque a entièrement changé. Et ce que je voudrais vous faire comprendre donc, c'est que l'objet principal de la biologie n'est pas de comprendre quels sont les objets matériels qui forment les organismes vivants, mais quelles sont les relations entre ces objets et ces relations entre ces objets et quel est le mécanisme qui permet de les créer. Ces relations entre ces objets ont quelque chose à dire avec un concept que je vais introduire maintenant, qui est le concept d'information. Alors, vous savez tous que la physique classique est fondée sur quatre éléments particuliers, matière, énergie, espace et temps, qui sont admirablement résumés dans cette minuscule formule qui réunit l'ensemble de ce qu'on croit connaître de la nature. Mais dès 1905, sont apparues un certain nombre de contraintes qui montraient que ça n'est peut-être pas suffisant. La physique quantique introduit quelque chose, qui est le principe d'incertitude que j'ai écrit ici, le produit d'une incertitude sur la position et sur le moment. Et cette incertitude signifie manque d'information. Et c'est, ça signifie donc que pour rendre compte de la nature, il faut non seulement les quatre éléments matière, énergie, espace et temps, mais aussi quelque chose de supplémentaire qui est information. Alors, ce quelque chose supplémentaire change complètement la nature de la classification des sciences telle que Auguste Comte l'avait inventée. En fait, si l'on prend matière, énergie, espace et temps et l'accroissement de l'information, on voit qu'on passe de la physique classique, la physique quantique, etc., jusqu'à la mathématique. La mathématique étant dans cette classification proche de la biologie. Alors c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement surprenant à beaucoup et qui explique pourquoi la biologie est souvent si difficile à comprendre. La biologie est en fait, bien que nous soyons nous-mêmes des organismes vivants qui ayons donc l'impression de nous comprendre facilement, la biologie est en fait très abstraite et très proche de la mathématique. Alors, cet aspect d'introduction de l'information est quelque chose qui est assez bien compris des physiciens, et beaucoup de physiciens s'interrogent, comme ici le physicien de Scholl, Andrew Stearn, s'interrogent sur le fait que si nous introduisons un cinquième élément dans la représentation de la nature, et que c'est seulement maintenant que nous commençons à le faire, nous en sommes certainement au balbutiement. Et c'est ce qu'il écrit ici. Essentiellement, il faut aujourd'hui essayer de comprendre ce qu'est l'information. Alors l'objet de mon exposé ne va pas être de vous présenter ce qu'est l'information. Ça prendrait certainement une heure ou moins pour commencer à le faire. Mais simplement que vous ayez le sens commun de ce que vous appelez en général l'information, cette chose que nous transmettons en ce moment. Par exemple, lorsque je vous parle, il y a transmission de quelque chose qui fait réagir vos cerveaux, etc., et qui est une information. Bien, lorsque on replace maintenant la biologie avec ce concept, on s'aperçoit que donc on a effectivement la physique avec la physique classique, déjà la physique quantique qui introduit l'information, puis la biologie, et puis on arrive à la mathématique, et dans la mathématique, on a essentiellement l'arithmétique et le calcul qui sont faits de suites de symboles et de la façon dont on manipule des suites de symboles qui ont des propriétés particulièrement intéressantes. En particulier, le fait de pouvoir calculer et surtout le fait de pouvoir manipuler toutes les opérations de la logique. C'est quelque chose qui est tout à fait central à l'arithmétique et au calcul et qui est d'ailleurs utilisé systématiquement, par exemple, dans la machine que je suis en train d'utiliser. Alors, est-ce que cet aspect particulier a un rapport quelconque avec la biologie? Après, ce que je viens de vous dire, qui est que donc le changement de cette classification a fait apparaître la biologie proche de la mathématique, on peut s'interroger de façon très concrète pour voir si la vie a effectivement un rapport avec le calcul. Alors, pour distinguer ce qu'est la vie, on peut essayer d'en donner aujourd'hui une définition. Et ici, je vous donne une définition essentiellement générale sous la forme de deux entités et trois processus. Ces entités sont un programme qui est une façon de transmettre et de manipuler de l'information de façon récursive, c'est-à-dire que le programme peut parler de lui-même, ce que nous faisons nous-mêmes lorsque nous parlons de la vie et de l'homme, par exemple. Et puis une machine qui sert au programme et qui utilise le programme pour agir. Cette machine, elle est faite de deux éléments. Un métabolisme qui introduit une dynamique, le temps intervient, il y a transformation de molécules les unes dans les autres, et quelque chose qui est central, qui est une compartimentation qui permet de définir un intérieur et un extérieur. Et l'atome de vie, par conséquent, avec ensemble de ces éléments, est la cellule. Et vous remarquerez qu'avec ces définitions ici, un virus, par exemple, n'est pas un organisme vivant. Bien. Alors le métabolisme, c'est quelque chose qui est fait d'un grand nombre de molécules qui essentiellement servent à assimiler des atomes de l'environnement. Les six principaux sont carbone, hydrogène, azote, oxygène, soufre et phosphore, et puis des ions, et puis gérer l'énergie et organiser la vie en général. Il y a des éléments centraux qu'on a tendance à omettre, je redirai deux mots tout à l'heure, les coenzymes ou les cofacteurs en général, qui réalisent les réactions du métabolisme. On les oublie, en particulier dans les scénarios de l'origine de la vie, qui font qu'en général, ils sont très malvenus. Typiquement, voilà une représentation d'un morceau du métabolisme. On transforme une molécule en une autre, etc., pour aller, par exemple ici, jusqu'à fabriquer l'ADN. Alors, la compartimentation, eh bien, les organismes vivants ont des compartiments de deux classes. On a une grande partie des organismes vivants qui sont essentiellement faits d'une cellule avec une enveloppe plus ou moins compliquée, et puis des organismes qui, au contraire, gèrent les enveloppes de telle manière à multiplier les membranes et les peaux, jusque chez nous, aux vêtements, par exemple. Vous voyez bien qu'il y a ces deux façons de gérer totalement différentes, et ça a des propriétés très différentes dans l'organisation de la vie en général. Mais cette compartimentation, à plusieurs niveaux, existe même chez les bactéries. Vous voyez ici une bactérie qui a une spore à l'intérieur, et même des bactéries qui se différencient de façon très compliquée, pratiquement aussi compliquée que ce que font des champignons, qui sont des cellules qui elles-mêmes ont déjà beaucoup de structures d'enveloppe. Alors maintenant, comment se fait le transfert d'informations et quel est son rôle? Eh bien, essentiellement, le programme génétique a comme rôle de placer la vie en contexte et de permettre de reconstruire une cellule. C'est essentiellement comme un manuel de donner à un ingénieur pour construire une usine. Et mais dans ce cas précis, c'est le manuel qui sert à construire l'usine qui, justement, utilise le manuel, ce qui est quelque chose de très particulier. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Alors, les règles de transformation, de transfert de l'information se font de façon assez particulière. Il y a trois niveaux. La réplication avec une loi très précise qui est complémentarité, c'est-à-dire qu'on a un texte qui est transformé en un texte de même valeur, si vous voulez. La transcription qui correspond au choix d'une partie d'expression du texte, c'est comme si vous aviez un livre de recettes et vous ne faites tel jour que telle recette et non l'ensemble du livre. Et puis enfin, la partie qui est tout à fait fondamentale, la traduction, qui transforme donc ce texte initial en un autre texte qui est dans un alphabet totalement différent et qui a la propriété de rendre le système récursif, c'est-à-dire capable de travailler sur soi-même. C'est-à-dire le fait de faire des protéines, le programme génétique code des protéines qui manipulent le programme génétique. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui introduit une boucle étrange, comme Douglas Hofstadter les appelle, une boucle qui est celle que nous constatons aujourd'hui, qui est de revenir sur soi. Et ça a des conséquences que je ne pourrais pas développer aujourd'hui, mais qui sont tout à fait fascinantes. Et l'une de ces conséquences, c'est la capacité de produire systématiquement de l'imprévu. Alors, voilà comment ça s'organise. Vous avez donc l'ARN messager, un adaptateur qui permet de passer donc d'un texte d'un certain langage à un texte d'un autre langage. L'autre langage, celui des protéines, permet à la cellule d'agir sur elle-même et en particulier d'agir sur son propre programme. Voilà donc le cœur de ce qu'est la vie. Alors maintenant, quand on commence à regarder comment les choses se passent, on s'aperçoit que les processus centraux du métabolisme, c'est-à-dire les processus qui permettent de reconstruire la cellule, de la faire fonctionner, etc., sont tous organisés de la façon suivante. Ils sont organisés exactement comme des algorithmes, avec un début, une routine répétitive, des points de contrôle et une fin. Et c'est-à-dire qu'essentiellement, par exemple, si on fait la réplication de l'ADN, eh bien, on va ajouter des nucléotides un par un jusqu'à répliquer complètement un brin. Même chose pour la transcription, même chose pour la traduction. Donc, on est comme si on avait un système où on exprime un programme avec des algorithmes qui sont hautement parallèles. Et le rôle des points de contrôle ici, qui est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas très étudié à l'heure actuelle, excepté au cours de la division cellulaire, les points de contrôle servent à harmoniser le parallélisme extrêmement élevé qui a lieu dans le fonctionnement de la cellule. Alors, en résumé, ça se passe de la façon suivante. C'est typiquement l'expression d'un gène, d'un gène quelque part. On a une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase qui lie l'ADN en un ARN messager. Et puis, cet ADN, cet ARN est lu par les nanomachines qui sont les ribosomes et qui fabriquent les protéines. Donc, si vous voulez, ça, c'est la règle tout à fait générale de la façon dont la machine cellule fonctionne pour exprimer son programme. Donc, on arrive à une description qui, pour l'instant, introduit essentiellement des éléments proches de la physique, disons, classique, la physico-chimie classique. Alors maintenant, où en est le calcul? Eh bien, qu'est-ce que calculer? Pour calculer, il faut essentiellement deux choses. Une machine capable de lire et écrire un programme qui est fait d'une suite de symboles et qui doit être totalement séparé de la machine, au moins conceptuellement. Et en général, on distingue dans le programme deux aspects différents, soit la partie que nous appelons programme, mais c'est très anthropomorphique ou anthropocentrique comme façon de voir, c'est-à-dire que nous imaginons ou nous créons des programmes avec un objectif, mais ça n'est pas du tout nécessaire pour que l'ordinateur fonctionne, il suffit d'être là, et des données qui expriment le contexte du programme. En fait, pour un ordinateur, il n'y a pas de distinction entre programme et données. Ça, c'est un point qui est fondamental. Il suffit juste d'avoir la machine et des suites de symboles qui sont introduits et reconnus par la machine. Bien. Alors, est-ce que on peut se dire que les choses se passent de cette manière entre le programme génétique et la cellule? Eh bien, nous avons aujourd'hui un grand nombre d'éléments qui justifient de penser que la machine cellule se comporte de cette façon. Il y a d'abord ce qu'on appelle les transferts génétiques horizontaux. On s'est rendu compte depuis 1991 qu'un très grand nombre de gènes, en particulier chez les bactéries, viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que les bactéries sont capables d'avoir dans leur propre génome des gènes qui viennent d'ailleurs et qui changent tout le temps, ce qui veut dire qu'il y a des morceaux de programme qui sont immédiatement reconnus. Une deuxième chose qui est classique, ce sont les virus. Les virus sont des morceaux de programme qui sont reconnus. Et d'ailleurs, la métaphore a fonctionné en sens inverse, puisqu'on parle de virus dans les ordinateurs en reprenant exactement la métaphore de ce qui se passe chez les organismes vivants. Il y a un peu plus, évidemment. On peut même construire des programmes artificiels, c'est-à-dire décider chimiquement d'organiser des suites de bases dans un ADN artificiel, l'introduire dans une cellule, et cet ADN va être reconnu et avoir une action. Et enfin, depuis 2007, on a conceptuellement une expérience réalisée par Craig Venter qui est tout à fait frappante, qui est la transplantation d'un ADN d'une espèce dans une autre espèce, et cet ADN va donner lieu à l'espèce qui lui correspond. Alors ça, c'est en soi, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça s'est réalisé de la façon suivante. Donc vous avez un ADN d'une espèce qu'on purifie, on le met dans une autre espèce, pas la même. Il va commencer à se développer, donc vous voyez, il conserve au début la machine qui le reçoit, mais comme il code des éléments différents, il va créer une autre machine qui correspond à l'espèce du départ. Et ça, à mon sens, c'est la démonstration la plus forte qu'une cellule se comporte exactement comme une machine de Turing. Alors ça, je pense que c'est un point qui est tout à fait frappant. Alors la seule objection qu'on peut faire dans l'état actuel, c'est qu'à ma connaissance, un seul laboratoire à réaliser cette expérience pour l'instant. Et donc, comme toujours en science, on aime que les choses soient répétées pour être sûr qu'elles sont vraies. Mais en soi, il n'y a pas de raison de penser que ça ne marche pas comme ça. Alors, à ce point, il faut commencer à penser à un certain nombre d'éléments cruciaux avant de critiquer et d'imaginer continuer ce type d'expérience, c'est-à-dire faire d'autres types de transplantations. Vous savez que dans les ordinateurs, on a ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation et qu'il peut y avoir, bien entendu, avec le même modèle d'ordinateur, plusieurs types de systèmes d'exploitation. Et par conséquent, il n'y a aucune raison de penser que dans les organismes vivants, tous ont le même système d'exploitation. Et de fait, si on compare les organismes à une seule cellule, les prokaryotes et les eucaryotes, il est très probable, quand on regarde la façon dont leurs génomes sont organisés, qu'ils ne correspondent pas exactement à des mêmes systèmes d'exploitation. Et c'est-à-dire que si on mettait un programme d'eucaryote directement dans un prokaryote, il y a peu de chances qu'il puisse fonctionner, par exemple. Ça, c'est un point qui est crucial à retenir et qui n'est pas une objection, puisque ça existe déjà chez les ordinateurs. Alors, il y a évidemment une question liée à tout cet aspect, une objection majeure, qui est évidemment, jusqu'à présent, les ordinateurs ne font pas des ordinateurs. Je vous ai néanmoins parlé de la machine, l'imprimante laser 3D, qui montre qu'on a déjà une tentative pour essayer de s'approcher de cette idée. Mais que faut-il de plus pour qu'un ordinateur puisse faire un ordinateur? Ben, John von Neumann, qui a beaucoup réfléchi à la conception des ordinateurs et qui imaginait le cerveau comme un ordinateur, alors que je soupçonne que c'est pas du tout comme ça que le cerveau marche, mais s'était interrogé sur cette question et s'était demandé qu'est-ce qu'il fallait de plus. Et son idée était qu'il fallait quelque part une image de la machine. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut imaginer quelque part une image de la machine? Alors, vous allez me dire, c'est quelque chose de tout à fait farfelu d'imaginer une image de la machine dans le programme génétique des organismes vivants. Eh bien voilà, au moins quelque chose qui est surprenant, mais qui a un sens. Il existe chez les organismes supérieurs, comme nous-mêmes, des suites de gènes qu'on appelle des homéogènes, qui sont des gènes régulateurs, qui ont la particularité d'être organisés en une suite qui est arrangée exactement dans l'ordre des segments de l'animal. Alors, Chez les insectes, les segments sont très facilement repérables. Chez nous, c'est un peu plus difficile. On le sent parce qu'on a des côtes, parce qu'on a des vertèbres. La raison est très simple. C'est que chez les insectes, il y a une seule partition, si vous voulez. Et chez nous, nous sommes un quatuor. Et par exemple, la tête est une vertèbre terriblement déformée. Et donc, ça fait qu'on ne voit pas très bien, en tout cas, à première vue, la façon dont sont organisés ces gènes. Mais ils sont néanmoins organisés dans le sens exact du plan de l'organisme. Ce qui fait un lien donc entre le génome et le plan de l'organisme. Il y a un peu plus, si on change cet ordre, alors on déplace les segments. Et il y avait une très grande controverse au milieu du 19e siècle entre Geoffroy Saint-Hilaire et ses collègues. Geoffroy Saint-Hilaire disait que les crustacés étaient la même chose que les insectes, mais avec une inversion entre le thorax et l'abdomen, avec le devant qui passait derrière et inversement, et tout le monde le ridiculisait. Eh bien, on a démontré il y a très peu de temps que, en fait, les deux gènes qui sont ici, les deux homéogènes qui sont à la jonction thorax-abdomen, sont effectivement inversés chez les crustacés par rapport aux insectes. Donc, si vous voulez, c'est juste une observation. Je ne dis pas du tout que c'est une justification de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais c'est juste pour vous dire qu'il n'est pas complètement et qu'on puisse trouver un plan de l'organisme dans l'organisation au moins de certains gènes. Alors, un groupe espagnol a travaillé sur les bactéries et s'est intéressé à des gènes qui sont responsables de la forme de ces bactéries. Et voilà, ce sont des gènes qu'on appelle les MUR et FTS. Et donc, les couleurs vous donnent ici l'ordre réparti dans différents génomes. Alors, quand on regarde de près ces génomes, la façon dont ces génomes ont évolué n'a rien à voir avec cet ordre. Cet ordre, on ne sait pas d'ailleurs très bien pourquoi, a changé d'organisme à organisme. Mais ils sont amusés, eux, à regarder si on prend cet ordre et qu'on reconstruit un arbre, quel arbre on trouve. Et ils ont trouvé cet arbre qui correspond à quelque chose où la forme des bactéries est conservée. Comme si ces gènes permettaient à nouveau de dire la forme des bactéries. Donc la conjecture que je suis en train de faire, qui est qu'il y a quelque part dans la machine une image de la machine, n'est peut-être pas complètement farfelue. Bien, passons juste à quelques principes physiques simples. Donc jusqu'à présent, on était à des généralités, une machine séparée des données programmes. Maintenant, évidemment, il faut des objets réels pour mettre cette machine en œuvre. Et essentiellement, il faut d'une part un constructeur, c'est quelque chose qui permet de construire la machine et qui donc doit respecter des règles, et en particulier des règles d'organisation générale, et puis d'autre part un réplicateur. Et tout ça, c'est réalisé à partir de l'ADN, mais l'ADN est lui-même une molécule qui a des contraintes très fortes. Et en particulier, je ne peux pas, faute de temps, vous détailler les conséquences de ces contraintes, mais elles sont énormes. Par exemple, la façon dont le brin de l'ADN est répliqué, le brin direct et le brin complémentaire, n'est pas du tout la même, et ça a des conséquences énormes sur la répartition des gènes, sur leur composition, sur les gènes qui peuvent aller dans un brin par rapport à l'autre, etc. Et puis, il y a effectivement des contraintes physiques ailleurs. Comment l'ADN peut-il se séparer de ses descendants? L'ADN est un fil très embrouillé. Vous avez donc les chromosomes qui se répliquent. Vous avez donc deux fils très embrouillés. Comment est-ce que ça peut se séparer? Ça peut paraître magique. Eh bien, là, la physique, à nouveau, va nous dire que les choses se passent de façon finalement assez simple et respectant les règles de la physique. Alors, quelqu'un qui est très intervenu dans ce sujet, Hubert Jocquet, qui est toujours en vie, avec Henri Kastler, qui est mort il y a très longtemps, s'était interrogé entre 1953 et 1958 sur l'idée cellule-ordinateur. Et c'est assez intéressant, puisque ça fait 50 ans, et cette idée a été pratiquement complètement abandonnée, avec toute une série d'objections. Je vais revenir sur une de ces objections dans un instant. Je vous rappelle donc, Jocquet, essentiellement la difficulté sous-jacente, c'est le passage du concept à la matière. Mais, comme vous le voyez, ce passage du concept à la matière existe aussi pour des ordinateurs. Un ordinateur n'est pas une machine de Turing abstraite, c'est bien un objet concret qui a des contraintes concrètes. Alors, dans le cas de l'ADN, quel type de contraintes est-ce qu'on a? Eh bien, voilà, une première chose qui est passée inaperçue pendant un certain temps, parce que malheureusement, une idée fausse et très répandue, c'est l'idée entropie égale désordre. Alors, d'où venait cette idée étrange? Cette idée venait d'un modèle de Boltzmann, de gaz parfait, dans lequel il avait deux gaz parfaits séparés par une membrane. Et puis, il ouvre la membrane et il s'aperçoit que spontanément, les gaz vont se mélanger, que par conséquent, de l'hétérogène, on passe vers l'homogène. Alors, un certain nombre de personnes ont interprété cette transition de l'hétérogène vers l'homogène sous la forme de dire on passe de quelque chose d'ordonné vers quelque chose de désordonné. Mais ça, vous remarquerez immédiatement qu'on introduit l'idéologie, puisque entropie est un mot de la physique qui n'a rien à voir avec un mot qui contient énormément d'idéologie, qui est le mot ordre. Alors, un certain nombre de gens se sont interrogés sur ce qui se passe dans d'autres situations, et en particulier en reprenant des idées de Gênes, d'ailleurs. J'avais pensé à ça pendant un certain temps, mais surtout un jeune coréen, Seok Jun-jun, a eu l'idée très simple qui était de relier les molécules de gaz de Boltzmann par un fil et de regarder ce qui se passe. Eh bien là, il se passe exactement l'opposé. Vous avez donc les deux fils mélangés et vous laissez le système faire en lui offrant simplement de la place. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les deux systèmes vont avoir tendance à se séparer par la même augmentation d'entropie. Par conséquent, si, au lieu d'avoir des molécules isolées, vous allez de l'hétérogène vers l'homogène, si maintenant vous avez ces molécules liées par un fil, c'est exactement l'opposé qui se produit, toujours sous la contrainte de la même contrainte physique qui est l'augmentation d'entropie. Donc ça, c'est un point important. C'est un point important parce que ça vous dit que la physique vous permet d'imaginer la séparation des chromosomes simplement par augmentation d'entropie. Donc il n'y a pas du tout de lutte contre l'entropie dans ce cas-là. Vous avez un phénomène qui vous résout le problème, qui peut évidemment être optimisé ensuite avec des fonctions beaucoup plus compliquées. Bien. Alors maintenant, l'objection classique était de dire, eh bien, en fait, il y a toujours de l'information ailleurs. En particulier, il y a de l'information dans la machine. C'est évident, et c'est d'ailleurs évident dans un ordinateur. Il y a aussi de l'information dans la machine. Il n'y a pas que l'information du programme. Et puis, il y a une deuxième chose qui est de dire, il faut un support physique pour, quand on parle d'un programme, ce programme doit correspondre à un support physique. Alors, donc on ne peut pas complètement séparer le matériel du logiciel. Si vous voulez, la théorie de la machine de Turing, du calculateur théorique, sépare le logiciel du matériel complètement. Mais on ne peut pas, dès qu'on implémente de façon concrète, on ne peut pas le faire, puisqu'il faut bien des objets concrets pour porter un programme. Et par exemple, ce programme sera porté par un CD. Si vous avez un CD, vous allez le mettre dans votre machine, et immédiatement, elle va se mettre à marcher parce qu'il a le système d'exploitation approprié, etc. Très bien. Si maintenant, ce CD, vous l'avez laissé un certain temps sur la plage arrière de votre voiture un jour de grand soleil, qu'est-ce qui se passe? Le CD va être légèrement déformé. Si vous le mettez dans la machine, bien que le programme soit absolument intact, il ne marchera pas. Donc, si vous voulez, l'objection qui était de dire l'ADN est un élément matériel qui contient autre chose que simplement le programme, mais c'est vrai aussi pour un ordinateur, et par conséquent, ça n'est pas une bonne objection. D'accord ? Alors, il y a une conséquence importante de ce que je viens de vous dire là, qui est liée aux expériences de Craig Venter, justement, c'est que si c'est vrai que la forme de l'objet final, c'est-à-dire que l'ADN que vous allez mettre dans une nouvelle cellule, est importante pour être reconnue, il est possible que dans certains cas, on soit dans cette situation mauvaise et qu'en fait, on n'arrive pas à faire l'expérience. Il est tout à fait possible qu'il faille présenter l'ADN sous une forme particulière de repliement pour qu'il puisse être reconnu. Donc, je pense que là, nous avons une difficulté à attendre, même si la métaphore est exacte, même si l'image, le modèle machine de Turing est exact, on doit s'attendre à une difficulté de ce genre dans les années qui viennent. Bien. Alors maintenant, passons un peu plus loin à l'organisation des gènes. Quels sont les gènes qui sont impliqués dans la fabrication d'une cellule? Alors, pour essayer de le comprendre, je suis obligé de revenir à un concept central en biologie que je ne discute pas ici, qui soulève des questions philosophiques profondes et qui nécessiterait en fait un grand nombre d'exposés et un grand nombre d'heures, qui est le concept de fonction. Alors ici, je retiens simplement l'idée de fonction comme une action associé à un objectif. Mais ça, c'est une vision très primitive et qui suppose quelque chose d'assez bizarre, qui est l'idée d'objectif. C'est la même chose que dans le concept de programme. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, alors qu'en fait, une fonction peut être simplement déclarative. Mais là, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous détailler comment ça pourrait fonctionner. Ça prendrait trop de temps. Mais l'idée, essentiellement, est que ici, ces fonctions sont associées à des concepts qui sont très liés à de l'information en général. Et donc, ce qui compte pour la biologie, ce sont des fonctions et pas des objets. Alors, comment relie-t-on les fonctions aux objets? De façon générale, tous les systèmes matériels qui sont soumis au trio variation, sélection, amplification, c'est-à-dire que vous avez des variantes de quelque chose, puis on en retient quelques-uns, et ceux qui sont retenus sont amplifiés, ces systèmes vont systématiquement évoluer. Au cours de l'évolution, se créent des occasions de fonction. C'est-à-dire on a une espèce d'ouverture vers quelque chose qui permettrait la stabilisation de ce trio. D'accord ? C'est ça qu'on va appeler une fonction. Mais évidemment, la fonction ne peut être réalisée qu'avec un objet concret. D'accord ? Et donc, elle sera liée à une structure. Alors, la plupart des programmes classiques fondés sur la physico-chimie et de la biologie qui finalement rencontrent beaucoup d'objections, part en sens inverse. Elle dit que la séquence vous dira la structure, que la structure vous dira la fonction, et qu'à partir de la fonction, on peut reconstituer l'évolution. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est exactement dans le sens inverse. Alors, j'ai un exemple très simple à vous donner, métaphorique. C'est l'été. Je suis assis à mon bureau, qui est couvert de papier. La fenêtre est ouverte dans mon dos. Je suis en train de lire un livre. Et soudain, le vent se lève. Qu'est-ce que je fais? Je prends le livre et je le pose immédiatement sur les papiers pour que les papiers ne s'envolent pas. Et le livre vient d'acquérir une fonction tout d'un coup, qui est celle d'être un presse-papier, parce que c'est un parallélépipède lourd. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental qui vous montre comment une fonction apparaît. Et j'ai donc utilisé ce que j'avais sous la main, c'est cet aspect bricolage cher à François Jacob, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main, et vous imaginez maintenant que je suis un généticien qui est donc les gènes d'un génome, et je découvre le gène du livre. Et je vais l'analyser, connaissant des livres par ailleurs, qui ont le rôle de livre, je vais dire « ceci est un livre ». Et je me serais complètement trompé, parce que ceci est un presse-papier. Et là, il y a énormément d'exemples concrets pour réaliser cet aspect en biologie. Et donc, essayez de retenir que ce que nous cherchons à comprendre, ce sont les fonctions, et que plusieurs objets peuvent avoir une même fonction, et que ces objets sont recrutés parmi ceux dont on dispose à un moment donné. Bien. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour essayer de découvrir quelles sont les fonctions essentielles pour les organismes vivants? Avec ce que je viens de vous dire, évidemment, on a l'impression qu'on va être très pessimiste, puisque à peu près n'importe quoi peut faire fonction d'eux, et que donc, ça va être très difficile à trouver. Heureusement, les organismes vivants descendent les uns des autres, et au cours de la descendance, évidemment, s'ils ont découvert un objet qui remplit une fonction de façon, disons, satisfaisante au moins pour un temps, ils ont tendance à le transmettre à la descendance et à le conserver. Par conséquent, on peut rechercher, quand on a beaucoup de génomes, ce qu'on appelle des gènes persistants, c'est-à-dire des gènes qui ne sont pas présents partout, ne sont pas des gènes ubiquistes, mais des gènes qui ont tendance à rester dans beaucoup de génomes. Et à partir de cela, on va essayer d'identifier les fonctions et chercher, là où on ne trouve pas le gène correspondant, un autre gène qui réponde à cette fonction. Donc la recherche des gènes persistants chez les bactéries donne un résultat extrêmement surprenant. On trouve environ 400 à 500 gènes qui suffisent à donner l'ensemble des gènes qui persistent dans les bactéries. Alors ici, vous avez le cas de deux bactéries, Bacillus subtilis et Escherichia coli. On regarde les gènes qui sont présents seulement dans Bacillus subtilis, puis dans deux bactéries, puis dans trois, etc. On s'aperçoit que ce chiffre décroît constamment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gènes qui ne sont présents que dans très peu d'organismes. Puis tout d'un coup, il se remet à croître. C'est-à-dire des organismes c'est des gènes qui sont typiquement persistants. Mais vous voyez, ils ne sont pas présents partout. Ils sont présents simplement dans un certain nombre. Alors on peut aussi essayer de comparer ces gènes aux gènes qu'on appelle essentiels. C'est-à-dire, si on inactive ces gènes et qu'on essaie de voir si les bactéries en question peuvent vivre, on s'aperçoit qu'elles ne vivent pas. Et le résultat est ici assez surprenant. En fait, donc en bleu sont les gènes essentiels et en rouge les gènes persistants autres qu'essentiels. On trouve à peu près deux fois plus de gènes persistants que de gènes essentiels. Alors donc toute la question qui se pose, et on va revenir là-dessus, dans ce qui suit, et de savoir quels sont ces gènes. Les gènes essentiels, on comprend. Les gènes persistants, on comprend moins bien. Alors voilà à peu près ce qu'on trouve. 250 gènes essentiels et puis des gènes persistants. Alors, ils codent pour des rustines métaboliques, je n'interviendrai pas sur ce que c'est, mais surtout des processus de dégradation utilisant de l'énergie, et j'y reviendrai. Alors, quand on commence à étudier ces gènes persistants, on peut essayer d'analyser la façon dont ils sont regroupés dans les génomes. Ça va être très important si on veut reconstruire un organisme vivant. Et l'idée est très simple. On regarde dans un très grand nombre de génomes. Ici, on a regardé dans 228. S'ils sont proches les uns des autres ou non. Et en fonction de cette proximité, on crée un réseau de proximité, d'attraction mutuelle. Eh bien, on trouve la chose suivante. On trouve que l'organisation de ces gènes reconstitue un scénario d'origine de la vie. Alors ça, c'est quelque chose qui est pour moi tout à fait fascinant. Tout se passe comme si nous étions encore aujourd'hui extrêmement proches de l'origine de la vie. Alors, avant de vous en parler, il faut juste que je vous dise une petite chose. L'idée de la soupe originelle est une idée qui ne tient absolument pas. S'il y avait soupe originelle, ce serait essentiellement un brouet empoisonné, parce qu'essentiellement, elle contient des quantités de molécules qui sont des poisons, et elle ne contient pas les molécules essentielles, à savoir en particulier les coenzymes, les nucléotides et les lipides. Donc, on ne peut pas penser à un mécanisme de type soupe. Et d'autre part, ce type soupe supposerait que l'évolution s'est faite du compliqué vers le simple, c'est-à-dire qu'on a une soupe donc riche, et puis petit à petit, les organismes épuisant quelque chose vont aller progressivement en arrière vers le plus simple. C'est-à-dire qu'on aurait dû voir l'évolution dans ce sens-là. Et c'est pas du tout ce qu'on observe. Donc, si vous voulez, le modèle de la soupe n'a pas de sens. Bien. En fait, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer un modèle assez simple dans lequel on a d'abord un métabolisme de surface, c'est-à-dire c'est à la surface des pierres, à la surface de certains solides que se font les combinaisons chimiques qui sont précurseurs des biobriques qui vont fabriquer les organismes vivants. Puis cette surface est remplacée par un type moléculaire particulier qui est l'ARN, et l'ARN remplaçant en fait la surface. Et enfin, une fois que l'ARN a été découvert, eh bien, il découvre lui-même qu'il peut, au lieu d'être un substrat, devenir une matrice, parce que la suite des nucléotides de l'ARN permet la règle de complémentarité. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait imaginable. Eh bien, voilà ce qu'on trouve quand on regarde la façon dont sont organisés les gènes persistants dont je vous ai parlé tout à l'heure. On trouve trois niveaux. D'abord, un premier ensemble qui est très peu connecté, comme s'il était extrêmement ancien. Et quand on regarde de près ce que codent les gènes correspondants, eh bien, ces gènes codent les biobriques qui sont essentielles à la fabrication des organismes vivants dont je vous ai parlé tout à l'heure. En particulier, ils codent la synthèse des nucléotides qui permettront de faire l'ARN. Le deuxième niveau est ici. Vous voyez qu'il est plus connecté, à chaque fois connecté à des éléments uniques. Et ces éléments uniques, qu'est-ce que ce sont? Ce sont les enzymes qui chargent les acides aminés sur les ARN de transfert, comme si les ARN de transfert étaient des matrices initiales sur lesquelles s'opérait le métabolisme. Et enfin, un niveau très connecté ici, qui correspond essentiellement à la machinerie de traduction, à la machinerie de transcription. Et ce que vous voyez très connecté ici, c'est la nanomachine qui est le ribosome. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinairement frappant. La façon dont les bactéries aujourd'hui existent et dont les gènes sont conservés nous reconstitue un scénario de ce type. Donc si on veut reconstituer un organisme vivant, bien entendu, il faudra tenir compte de ces objets. Alors, en raison de cette façon d'être organisé, on a appelé cet ensemble le paléome pour dire qu'il est ancien, et on peut commencer à regarder à partir de là comment sont organisés les génomes bactériens. Eh bien, typiquement, les génomes bactériens sont organisés sous la forme de deux grands génomes. Le premier, qui est ce paléome, il contient des éléments qui servent essentiellement à la croissance, à l'anabolisme, comment perpétuer la vie. Et puis, un deuxième élément qui correspond à quelque chose qui est plus difficile à comprendre, sur lequel je reviendrai à la fin de mon exposé, qui est, c'est une chose de vivre, mais il faut aussi survivre, parce que le vieillissement est quelque chose d'extraordinairement rapide. Je vais y revenir. Et puis, bien sûr, il y a la réplication. Alors ça, c'est la partie paléome. C'est la partie qui correspond à peu près à 500 gènes, pas plus, qui est quelque chose de tout à fait central dans les fonctions essentielles pour les organismes vivants. Et puis, la deuxième partie est une partie qui est extraordinairement variable, que j'ai appelée cénome comme dans biocénose, qui correspond essentiellement à des gènes en nombre illimité, en fait, dans l'état actuel, qui correspondent aux gènes permettant de vivre en contexte. Et vous avez peut-être entendu parler de métagénomique, typiquement le fait de ramasser des gènes dans l'environnement. Eh bien, typiquement, ce sont ces gènes qui forment ce cénome, qui sont un nombre infini de gènes permettant de vivre en contexte. Et puis, Ciel. Bon. Bien. Bon. Passons. C'est une happening, si je comprends bien. Bien. Vous voyez l'idée de conserver un génome qui permet de perpétuer la vie et de survivre, et puis une autre partie qui est complètement infini, en fait, qui permet de vivre en contexte. Et cette partie, d'ailleurs, est assez fascinante, puisque dans l'état actuel, elle est illimitée. Si on prend une espèce donnée, à chaque fois qu'on prend un isolat correspondant à cette espèce, on trouve de nouveaux gènes qui ne ressemblent à rien de connu. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant. Il y a une espèce de réservoir de gènes dans l'environnement absolument prodigieux. Bien, maintenant, une fois qu'on est arrivé à cette description générale du génome et de ce qui fait la cellule, on s'aperçoit qu'on est en face à nouveau d'un problème lié à l'information qui est très clair, qui est le suivant. Je vous ai dit qu'il faut vivre et survivre, et en particulier que les organismes vivants vieillissent très rapidement. Or, vieillir, ça veut dire quelque chose d'assez précis, ça veut dire perdre de l'information. C'est-à-dire qu'essentiellement, les protéines que nous avons fabriquées s'altèrent et elles ont perdu de l'information par rapport à ce qu'elles étaient initialement, elles fonctionnent moins bien. Et donc, il y a une espèce de gestion de l'information considérable à mettre en jeu. Alors, ça veut dire que si on subsiste, et l'homme, par exemple, vit assez longtemps, on doit sans arrêt être capable de recréer de l'information. Or, créer de l'information, la question qui se posait pendant très longtemps était de savoir, est-ce que créer de l'information est possible, hein, et deux, est-ce que ça consomme de l'énergie? Si je vous demandais ici, spontanément, est-ce que ça consomme de l'énergie de créer de l'information, je pense que pratiquement tous parmi cette assistance répondraient oui. Et en fait, c'était l'idée admise dans les années 50, en particulier par Léo Szilard, qui disait que pour créer un bit d'information, il faut 1/2 kT d'énergie. Donc l'idée était même très précise. On avait une idée très précise comment lier l'information à l'énergie. Bien. Mais vous imaginez aussitôt le problème qui se posait pour les ingénieurs qui fabriquaient des machines et qui voulaient fabriquer des ordinateurs, en particulier IBM. Si cette idée de création d'information est liée à la création à la consommation d'énergie, donc à des flux d'énergie, alors si on se met à vouloir faire fonctionner le système dans un très petit espace et extrêmement rapidement, les flux d'énergie vont être tels que le système va fondre, parce qu'il va chauffer de façon colossale. Donc, il faudra lui apporter des quantités d'énergie énormes, etc. Donc, ils ont demandé à leurs ingénieurs, et en particulier à Rolf Landauer, de calculer la limite théorique du calcul dans un calculateur, c'est-à-dire quel volume et quelle vitesse. Et en 1961, donc vous voyez, l'intuition commune a été contredite en 1961, et c'est presque inconnu, ce qui est pour moi extrêmement fascinant. En 1961, Rolf Landauer a démontré que la création d'informations est réversible et ne demande pas d'énergie. Alors ça, c'est un point absolument crucial, parce que ça dit quelque chose qui est finalement très important. Ça veut dire que la création, en général, puisque créer de l'information, c'est créer de la forme, à l'intérieur de la physique, ne demande pas d'énergie. En revanche, elle demande quelque chose de très très important. Elle demande énormément de place. Et en fait, si on veut créer de l'information, il faut un espace énorme. Et donc, en fait, on pourrait avoir l'idée, je crée de l'information une fois, et puis le système s'arrête parce que j'ai tout occupé. Alors, en travaillant avec Charles Bennett, qui est le père du calcul quantique, je ne sais pas si ça marchera. Si ça marche, nos ordinateurs seront infiniment rapides, mais on verra si ça marche. Avec Charles Bennett, ils se sont mis à étudier cette question en détail et se sont rendus compte qu'en fait, ce qui était important, c'est de faire de la place. C'est-à-dire que pour pouvoir recréer l'information ensuite. Mais évidemment, on ne peut pas faire de la place n'importe comment, parce que si on efface au hasard, on va effacer l'information qu'on a créée. D'accord ? Et pour pouvoir faire de la place sans effacer l'information qu'on a créée, alors il faut utiliser de l'énergie. Donc l'étape qui utilise de l'énergie n'est pas l'étape de création, c'est l'étape de destruction, évitant de détruire ce qui a été créé. D'accord ? Ça, c'est le point fondamental. Alors quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les organismes vivants vieillissent très fort, très rapidement, et donc essentiellement, on est en face d'un paradoxe qui est finalement merveilleux. Les bébés naissent extrêmement jeunes. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais c'est quelque chose qui est incroyable quand on regarde de près. C'est toujours un organisme âgé qui crée un organisme extrêmement jeune, comme si on avait des très vieilles machines, enfin je veux pas dire bon, mais qui font des machines entièrement jeunes, entièrement renouvelées et sans erreur. Comment est-ce possible? Nécessairement, ça implique quelque chose, ça implique qu'il y ait création d'informations. Alors, quand on commence à regarder ce que ça veut dire qu'il faut distinguer deux étapes. Il faut distinguer la reproduction de la machine de la réplication du programme. Et à nouveau, on retombe sur des idées liées à l'origine de la vie. Vous voyez qu'on tombe deux fois de suite sur l'origine de la vie. Le physicien Freeman Dyson, il y avait un peu plus de 20 ans, a écrit un livre qui s'appelait « Origins » au pluriel de la vie. Et il disait qu'il ne peut pas y avoir une origine de la vie, qu'il y en a nécessairement au moins deux. Pourquoi ? Parce que seule la reproduction peut s'améliorer au cours du temps, et il montrait comment, alors que la réplication ne peut qu'accumuler les erreurs. Par conséquent, il fallait d'abord avoir inventé un système qui se reproduise, et une fois qu'il savait fonctionner, il pouvait introduire la réplication. Eh bien, vous voyez que c'est tout à fait lié à ce que je viens de vous dire, mais au moment où Dyson a fait ce raisonnement, il ne s'était pas rendu compte du lien direct avec le théorème de Landauer-Bennett, c'est-à-dire du lien avec l'énergie et la création d'informations. Néanmoins, l'idée est que la reproduction de la machine, le fait de faire une machine qui soit, disons, réparée meilleure, suppose création d'informations et consommation d'énergie. Alors, vous voyez, dans tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, il y a deux éléments. D'une part, j'ai trouvé des gènes en trop. Là, j'avais des gènes essentiels plus des gènes en trop. Et maintenant, je trouve que ces gènes en trop... Tiens, j'ai une erreur qui est... Une faute qui est passée ici. Ces gènes en trop, ils ont une particularité, c'est que beaucoup d'entre eux codent des fonctions de dégradation qui sont des fonctions qui utilisent de l'énergie. Alors, quand vous réfléchissez un peu, vous apercevez que d'habitude, la dégradation, c'est utilisé pour produire de l'énergie. Et ça n'en utilise pas. Donc, on a effectivement un paradoxe ici. Et donc, d'autre part, comme je vous dis que pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir accumuler la création d'informations, il faut faire de la place en utilisant de l'énergie. Eh bien, on peut essayer de faire le rapprochement. Est-ce que faire une cellule ne doit pas impliquer ces deux ensembles de gènes? Et donc, l'idée, c'est celle-ci. Et je vais m'arrêter ici. L'idée, c'est que naître d'un organisme âgé veut dire qu'on accroît progressivement la qualité des entités impliquées et que cette qualité suppose une destruction sélective utilisant de l'énergie de manière à ne pas détruire ce qui a accumulé de l'information. Et par conséquent, je propose que ce que nous appelons sélection naturelle, en fait, est le processus physique qui, utilisant de l'énergie, sert à ne pas dégrader ce qui a créé de l'information tout en faisant de la place pour pouvoir l'accumuler au cours du temps. Et donc, je pense que je vais m'arrêter ici en remerciant un certain nombre de personnes. D'abord, Stanislas Noria, c'est un nom collectif, un peu comme Nicolas Bourbaki, d'un séminaire itinérant que j'ai développé en particulier à Hong Kong pendant 3 ans au département de mathématiques, donc où énormément de gens entrent et sortent et participent aux discussions. Plus spécifiquement sur le sujet que je viens de décrire, sont intervenus Gang Fang, qui est maintenant à Yale, Étienne Larsabal, qui dirige une DRIR à Nantes, et Édouard Dorocha, qui dirige un groupe de recherche à l'Institut Pasteur à Paris 6, et puis aussi Victor de Lorenzo à Madrid. Merci.
Merci Antoine Danchin. On va commencer tout de suite. Allez-y.
Le happening.
On va commencer aux questions.
Voilà. Oui, je voudrais revenir un peu sur la question que vous avez développée sur la séparation, par exemple, de deux brins de l'ADN par effet entropique, en quelque sorte. Vous disiez, c'est l'accroissement d'entropie qui serait responsable de la ségrégation. Mais dans la division cellulaire, il y a tout un mouvement très coordonné des chromosomes qui forment d'une manière générale la plaque équatoriale. Il y a un fuseau qui apparaît, etc. Autrement dit, il y a toute une série d'entités physiques qu'on voit qui apparaissent. L'effet anthropique, je m'excuse, mais si vous voulez, d'un côté, vous avez une véritable machine. Et l'effet anthropique, bon, c'est...
Mais non, alors, je peux vous répondre de façon très, très précise à ce propos. Ça n'était pas la séparation des brins, mais la séparation des chromosomes, d'une part. D'autre part, je n'ai pas discuté de la machine chez les eucaryotes, qui sont particulièrement évolués, mais chez les bactéries. Et chez les bactéries, on peut montrer, il y a effectivement une machine qui optimise cette séparation, qui fait qu'elle fait moins d'erreurs, etc. Il y a une machine, c'est les gènes MUC-B, par exemple, chez Escherichia coli, qui sont des gènes qui utilisent de l'énergie pour séparer les chromosomes. Mais quand ces gènes ne sont pas essentiels, si on les délète, et ça c'est très remarquable, les bactéries continuent à survivre. Simplement, ce qui se passe, c'est comme ça n'est pas optimisé, de temps en temps, on a une bactérie avec deux chromosomes et une bactérie vide. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que, justement, il y a découverte d'une fonction, c'est cette capture de l'information, découverte d'une fonction qui va optimiser cet effet initial de l'entropie.
Oui, mais donc, enfin, je m'excuse, mais enfin, dans les eucaryotes, puisque c'est là qu'on le met plus facilement en évidence, si vous voulez, il y a toute une cohérence des mouvements qui sort de ce que vous appelez le programme, si vous voulez.
Absolument, c'est vrai, oui. Mais c'est lié très, très exactement à ce que j'ai appelé point de contrôle. Vous avez vu dans la description d'un très haut parallélisme, comme le système est très hautement parallèle, si on a énormément de gènes, ce qui est le cas des eucaryotes en particulier,
Mais le gros problème de la biologie, n'est-ce pas précisément d'expliquer cette cohérence au niveau vraiment...
Mais cette cohérence vient de l'accumulation d'informations, c'est ce que j'essaie d'expliquer ici.
Monsieur.
Vous avez utilisé le terme évolution. C'est un terme extrêmement polémique dont il faut...
J'ai utilisé plusieurs termes polémiques.
Dont il faut préciser les mécanismes. Je pressens que dans votre conception, c'est le néo-darwinisme classique, sélection naturelle.
Ce que vous venez d'entendre n'est pas
terminer.
Ça.
Laissez-moi terminer, ensuite vous parlerez. Évolution bactérienne, les premiers 2 milliards d'années de la vie ont été exclusivement prokaryotiques, donc bactériennes. On peut supposer que ces bactéries n'étaient pas tellement malheureuses dans cette soupe prébiotique empoisonnées pour durer si longtemps et qu'elles ont quand même évolué. D'autre part, le passage de la cellule prokaryotique à la cellule eucaryotique, c'est-à-dire avec les membranes internes, constitue un bond extrêmement important. Et vous ne pouvez parler d'un seul type de cellule comme cela, c'est un autre équivalent de cellule. Donc ça, il faudrait les prendre aussi en compte.
Mais bien,
donc je souhaiterais que vous précisiez un petit peu votre conception de l'évolution des bactéries. Je voudrais rappeler une anecdote qui est due à André Wolff. André Wolff, vous le savez, qui a écrit pas mal de choses, et en particulier la faculté d'adaptation des bactéries, il a été contredit, et dans sa réponse, il déclarait la chose suivante: quelle serait la réaction de mon respectable contradicteur si on le plongeait dans une solution de nitrate et on l'exposait au soleil? Donc, la soupe n'a pas la même valeur pour tous les êtres vivants. Bon, enfin, voilà.
Merci.
J'avoue que je n'ai pas très bien compris l'anecdote finale, mais qu'il y ait des différences entre les eucaryotes et les prokaryotes, il n'y a pas de doute. Et en particulier, le choix que j'ai fait des bactéries est évidemment raisonné, puisque si on veut expliquer quelque chose qui finalement est fort compliqué, vous l'admettrez, on commence par le plus simple. Si on peut expliquer le plus simple d'abord, on passera au plus compliqué ensuite. En particulier, l'idée derrière est de chercher des organismes dans lesquels la compartimentation est la plus faible. En effet, vous l'avez remarqué implicitement, et ça correspond d'ailleurs à l'objection qui m'a été soulevée tout à l'heure, les organismes qui multiplient les membranes et les peaux doivent gérer ces membranes et les peaux, ce qui suppose effectivement une machinerie particulièrement compliquée. Donc on ne commence pas par expliquer le plus compliqué, on commence par essayer de voir si on peut expliquer le simple. Et en particulier dans l'idée biologie synthétique, il est tout à fait clair que personne n'a l'idée de créer d'emblée un organisme eucaryote avec un noyau, des mitochondries, etc. Ça, ce serait, à mon avis, proprement insensé, surtout mettre la charrue avant les bœufs.
Il y a un problème que j'aimerais voir éclairé par vous. C'est le suivant. C'est le problème du jeu bien connu des philosophes. Si vous prenez non pas la cellule, mais un organisme entier, si vous l'amputez, mettons moi-même, si vous me coupez les deux mains, si vous me coupez les quatre membres même, et les neuroscientifiques ont prouvé que si on enlevait certaines parties du cerveau, eh bien, je resterais moi-même malgré tout. Amputé, mais moi-même. Donc, il y a un endroit dans cette machine qui est l'être total, qui est beaucoup plus important que le reste. Le reste, finalement, ce sont les moyens qui permettent à ce centre de persister. Alors, est-ce que c'est la même chose au niveau cellulaire? Autrement dit, est-ce que la cellule a un jeu? Est-ce qu'une mitochondrie a un jeu, etc.?
Oui, alors, à nouveau, vous prenez un exemple d'organisme multicellulaire qui, volontairement, je n'ai pas choisi. Hein, en particulier, si on mettait en jeu le cerveau et la définition du jeu, etc., on arriverait à des choses beaucoup, beaucoup plus compliquées que ce que j'essayais de décrire. Ce que j'essaie de décrire pour l'instant, c'est simplement ce qu'est la vie en partant d'une cellule. Alors, maintenant, imaginez quel est le jeu d'une cellule, d'une bactérie, eh bien là, les différences sont très très intéressantes suivant les types bactériens, et elles sont très liées à la fin de mon exposé. Dans certains cas, on a des cellules qui, au moment où elles se reproduisent, font la chose suivante. Et le jeu, vous verrez qu'il y a justement un jeu assez étrange. Il y a deux cellules donc qui vont partir de la cellule mère, mais en fait, la mère va concentrer toutes les vieilles protéines et la jeune va avoir toutes les jeunes protéines. Donc vous voyez, pendant un certain temps, bon, elles ne sont pas encore séparées, le jeu sera un peu mélangé vieux et jeune, puis tout d'un coup, il y aura un vieux, un jeune. D'autres bactéries, et c'est le cas le plus fréquent, font ça de façon assez différente. C'est une extrémité de la bactérie qui vieillit. C'est-à-dire que quand elle se divise, vous avez les deux extrémités externes qui sont vieillies, et c'est le centre qui est jeune. Et au fur et à mesure qu'elles avancent, ça a été démontré en particulier par François Taddeï, c'est assez intéressant, au fur et à mesure qu'elles se multiplient, les plus vieilles, donc les extrémités, vont diminuer de taille et à la fin mourir. Donc, il y a une certaine idée de jeu qui est ce personnage bactérie qui va mourir à la fin, qui pourrait... Disons que c'est la mort qui définit le jeu. C'est une façon un peu étrange de dire, mais c'est comme ça qu'on définit l'individu.
Monsieur Lahaut.
Deux questions très rapides à exprimer. La première question, vous avez associé tout à l'heure la création d'informations, la réversibilité et l'énergie. Or, je croyais, quand j'étais jeune homme, que la notion de réversibilité et d'irréversibilité était liée à l'entropie et non pas à l'énergie. Et la deuxième question, c'est comment démontre-t-on qu'une croissance d'entropie peut séparer les chromosomes? J'ai pas bien compris.
C'est effectivement deux choses différentes. Alors, énergie, c'est au sens énergie générale qui contient énergie et entropie. Hein, les deux sont mélangés, comme le G de énergie. Et pour la séparation des chromosomes, alors là, ça se comprend assez bien. Supposons que ici, on mette de la musique et que je vous demande de vous tenir par la main et de faire une farandole. Qu'est-ce qui se passerait? Immédiatement, vous commencez à danser, à faire la farandole. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, vous allez aller dans les espaces libres et vous éloigner des endroits où vous êtes les uns avec les autres. Et ça a été démontré d'abord par Pierre-Gilles de Gennes. C'est le concept de reptation des polymères, dans lequel il a montré qu'effectivement, le rôle de l'entropie dans la reptation est absolument considérable. Et là, si vous voulez, je peux vous donner les références de l'article de Suk Jun Jun. C'est un article de PNAS de 2005, où il démontre de façon très très intéressante et avec des simulations très jolies, qu'effectivement, le système, simplement par ses mouvements spontanés donc qui sont liés à l'augmentation d'entropie, se sépare.
Monsieur.
Oui, je crois que pour faire une machine comme l'homme, par exemple, il faut considérer que l'homme est un ordinateur dans lequel le bus de données est confondu avec le bus d'adresse. Le sang contient les hormones, qui sont les adresses, parce qu'une hormone spécifique s'adresse à tel organe automatiquement, et l'information, c'est le niveau de l'hormone, c'est-à-dire sa concentration dans le sang. En partant de là, on peut aussi concevoir une machine qui fonctionne. Bon,
si vous voulez, à nouveau, vous me prenez un exemple très nettement plus compliqué que ce que j'ai décrit. L'idée, néanmoins, qui est commune avec ce que je viens de dire, c'est l'idée qu'il faut ajouter à la physique classique l'idée d'information. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est très très prégnant dans la biologie, d'ailleurs c'est ce que nous sommes en train de faire, il y a des échanges d'informations, et l'information est en soi un objet qui interagit avec la matière, et avec donc avec la matière, l'énergie, l'espace et le temps, et qui est organisé d'une façon très particulière dans les organismes vivants. Et ce que j'ai essayé de vous dire à la fin, c'est que on trouve cette gestion de l'information dans un système très particulier qui permet d'améliorer la qualité de l'objet au cours de la reproduction. D'accord ? C'est-à-dire, c'est un système qui a la propriété de capturer tout ce qui peut être création d'information. Et donc, c'est tellement précis ce que je vous dis, en fait, qu'il est possible de construire des expériences et qu'en fait elles sont en cours. C'est-à-dire de trouver des organismes vivants où on peut mesurer, entre guillemets, un accroissement d'information et voir si on inactive certains gènes, si on va altérer cette possibilité d'accroître l'information. Donc je pense que c'est vraiment l'avenir de la dizaine d'années qui arrive.
Madame, mademoiselle.
J'ai une question, en fait, c'est sur les associations entre chercheurs. Vous avez parlé d'algorithmique, de programme. Je suis dans le monde de l'informatique. Donc, je suis dans le monde de l'informatique depuis 10 ans et j'essaie de savoir avec quelle branche de l'informatique les biologistes travaillent actuellement, parce que vous avez parlé donc d'algorithmes, de programmes, mais quand j'ai regardé les instituts de recherche, c'était mathématiques pures. Je n'ai pas vu d'informatique.
Attendez, je n'ai pas bien compris la question.
En fait, j'aimerais savoir si les biologistes travaillent avec des mathématiciens ou avec des informaticiens.
Si les biologistes interagissent ?
Oui.
Oui, massivement.
Mais pour la partie conception, pas pour la partie utilisation, pour la partie conception pure.
Non, y compris pour la partie conceptuelle. Alors, je peux vous donner un exemple très précis. C'était un article qui a été publié par un astrophysicien qui s'appelle Massimo Vergasola l'an dernier dans Nature sur un concept qu'il a appelé infotaxie. Et c'est la chose suivante. Vous savez tous que, alors cette fois-ci je pars des cellules, je vais à nouveau dans des organismes assez organisés, les insectes. Vous savez que beaucoup d'insectes utilisent des phéromones, les femelles s'en servent pour attirer les mâles éventuellement à des très grandes distances. De façon classique, certains papillons peuvent attirer leur mâle à 10 km de distance. De façon tout à fait classique, les gens disent « Oh ben c'est rien, le mâle remonte un gradient », comme s'il y avait un gradient. Et évidemment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il y a du vent, il y a de la turbulence, il y a tout ce qu'on veut. Donc comment fait-il pour retrouver la femelle ? Et ce que Massimo Vergasola a démontré, c'est que la femelle fait un petit calcul et que ce calcul, en fait, maximise la capture d'informations en fonction de ce qu'elle rencontre dans son environnement, et elle ajuste son trajet à cette capture, et elle arrive à la fin, au mâle. Si vous êtes intéressé, c'est un article donc Massimo Vergasola, Nature, 2007. Et donc là, ce qui est mesuré, c'est directement de l'information. Et là, c'est une collaboration typique physicien... physicien biologiste.
On va prendre encore deux questions, madame, et puis en haut. Oui.
S'il vous plaît, vous nous avez parlé des gènes essentiels. Est-ce qu'il s'agit des gènes qu'on appelle architectes et qui, eux, décident de la position des organes ultérieurs à la fin ?
Alors, Même chose, je n'ai pas discuté à nouveau. Je me suis restreint aux cellules uniques, les bactéries. Donc, il ne s'agit pas de gènes, sauf dans le cas particulier où j'ai parlé des homéogènes et où vous avez vu que si on les change, on change la position des organes, justement. Les gènes dont j'ai parlé, gènes essentiels, c'est essentiellement les gènes qui permettent la fabrication des nanomachines et de l'enveloppe cellulaire. Donc, c'est la fabrication du ribosome, la fabrication de la machinerie de transcription, la fabrication de la machinerie de réplication, la fabrication de l'enveloppe et la fabrication du système de division cellulaire. D'accord? Il y en a, si on regarde de près, ça fait à peu près 250 gènes et ça correspond à un génome minimum qui existe, qu'on peut avoir dans une bactérie pour laquelle on pourra faire des colonies. Mais à ma connaissance, personne ne s'est interrogé pour savoir combien de temps on pourra reproduire cette colonie au cours du temps.
Monsieur, dernière question.
C'est une déduction un petit peu votre déconclusion qui est faire du neuf avec du vieux. Est-ce que ces découvertes enrichissent les connaissances sur la complexité croissante de la vie ? Où les êtres les plus simples ont un génome extrêmement plus simple, où les êtres deviennent de plus en plus complexes, est-ce que ce mécanisme de faire de l'espace, de conserver ce qui a été acquis et de détruire pour créer de l'espace, lié au mécanisme des mutations par hasard, explique le développement de plus en plus complexe de la vie?
Vous avez parfaitement compris ce que j'ai voulu dire, mais vraiment très très bien compris. En réalité, ce que j'ai décrit, c'est simplement l'ensemble des gènes qui permettent à une cellule de maintenir son intégrité dans sa non pas dans elle-même, mais dans sa descendance. Alors, je suis désolé pour nous tous, il n'y a aucun espoir que nous ne vieillissions pas et que nous ne mourions pas. Notre solution, c'est dans notre descendance et pas nous-mêmes. Mais ce mécanisme, parce qu'il existe, a la propriété tout à fait particulière que n'importe quelle création d'information va justement éviter d'être détruite. Par conséquent, en effet, je pense que c'est la base de la complexification croissante. Et je pense que ça explique de façon très profonde cet aspect très curieux de la sélection naturelle, puisqu'ici, la sélection naturelle devient un processus physique normal, qui est de dire « je détruis ce qui n'est pas en train de fonctionner ». C'est tout. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne dit pas, elle n'oriente pas, elle ne sait pas où elle va, mais simplement, à chaque fois que quelque chose fonctionne, il n'est pas détruit. Et en fait, l'utilisation de l'énergie sert à se décrocher de ce qu'on va détruire si ça marche.
Bien, nous allons remercier Antoine Danchin de cette superbe conclusion.